Chapitre 19. Bobby n'a pas encore franchi la porte du commissariat que Pete Torchio, le sergent de garde, tend un téléphone au bout de son bras et dit « Pour toi ».
« Qui ?»
Pete fait un clin d'œil.
« Il dit que son nom est spécial.
Quoi ?»«
Agent spécial Stansfield. »
Pete se croit très drôle. C'est la raison pour laquelle il en est à sa troisième femme alors qu'il n'a que 32 ans. Bobby pointe le doigt vers son bureau quand il franchit la barrière.
« Passe-le-moi. » « Ça me comble d'aise, Bobby. Ça me chatouille là où je pense, tu sais ça.
» Bobby arrive à son bureau. Le téléphone sonne. Le bouton de la ligne 2 clignote. Il appuie dessus et met le combiné à son oreille.
« Giles ?»« Bobby, comment va ?»«
Oh, tu sais bien.
Toi ?»« T'as appris que les manifestants contre le busing avaient démoli une des baies vitrées de notre bâtiment ?»
Ouais.
Ils ont hurlé le slogan « Aux chiottes les nègres » pendant plus d'une demi-heure, Bobby.
Il y a un ton dans sa voix qui suggère, d'une certaine manière, que Bobby est A. responsable ou B. capable d'expliquer ce comportement.
Je veux dire une demi-heure.
Ça fait long pour un seul et même slogan, dit Bobby. On se dit qu'ils auraient pu le mélanger à d'autres.
On devrait les mettre en cage, des gens comme ça.
Giles Stansfield a grandi dans le Connecticut. Il est allé à Brown University, puis à la faculté de droit de Yale. Jusqu'au moment où il a rejoint le bureau, il n'a probablement jamais rencontré une personne noire qui n'occupait pas un emploi de service pour les Stansfield ou à Yale. Et cela vaut également pour les blancs pauvres.
Quoi de neuf, Giles ?
J'ai entendu dire que tu vas renifler du côté de la bande de Butler.
Sa voix se fait tout à coup conviviale, comme s'il devisait aimablement au-dessus d'un bol de punch à une garden party.
Tu as entendu ça où ?
Je me disais juste que tu pourrais peut-être avoir envie de communiquer avec nous pour éviter tout risque de quiproquo.
Quel genre de quiproquo il pourrait y avoir ?
Juste des quiproquos.
La voix de Giles est toujours conviviale, mais un peu soucieuse aussi, comme si cette conversation ne se déroulait pas exactement comme elle s'était déroulée dans sa tête.
Pourquoi tu ne me dis pas de quel quiproquo il pourrait s'agir ? Comme ça, je saurais si je risque d'en provoquer.
Il entend Giles s'efforcer de ne pas soupirer.
C'est la faute de Nixon.
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Répond Bobby en rangeant son arme de service dans son tiroir
avant d'y ajouter ses clés de voiture pour faire bonne mesure.
C'est lui qui a créé cette connerie de Drug Enforcement Administration en fusionnant le bureau des stupes avec l'ODAL. Après, ils ont pris une bande de cow-boys et de flics marginalisés dans les commissariats de quartier de tout le Nord-Est et maintenant, ils appellent ça une agence.
Je croyais qu'ils appelaient ça une administration.
Bobby ne sait pas pourquoi il adore faire chier les types du FBI à ce point, mais c'est un fait.
Peu importe le nom qu'ils lui donnent, ces minables vers de terre avec leurs flingues, ces minables gerbilles avec leurs insignes, ils en ont après la bande de Butler eux aussi apparemment, ce qu'on ignorait, jusqu'au moment où ils ont embarqué un de ces gars.
Où est le problème ?
C'était un type à nous. Depuis 6 mois, il dirigeait un atelier de désossage de voitures volées qui appartient à Marty. Et la DEA a débarqué et ils ont tout fait foirer.
Ah, c'est moche.
Bobby tâte ses poches à la recherche de cigarettes, sent une bouffée de panique quand il se rend compte qu'il n'en a pas. Affolé, il regarde autour de lui, les aperçoit juste là, sur son bureau, où il les a posées 30 secondes plus tôt. À l'autre bout de l'espace commun, Vincent passe la tête à la porte de la salle d'interrogatoire B et, les yeux écarquillés, jette en direction de Bobby un regard chargé du message « Amène-toi ici ». Il fait la grimace et referme la porte.
« Ouais, c'est moche »,
dit Giles.
« Le chevauchement des activités, ça n'aide personne. La solution, c'est tout simplement de désigner une seule équipe pour diriger l'enquête. »
Bobby attrape ses cigarettes et des allumettes.
« Super idée !» dit-il avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. « On prend !»«
Oh non !»
s'empresse de répondre Giles.
« Vous autres, vous avez bien trop de boulot sur les bras. Pourquoi vous ne nous laisseriez pas nous occuper de ça ?»«
Pourquoi on ne programmerait pas une réunion pour en discuter ?»«
Bien sûr, mais en attendant, on pourrait se contenter d'un accord oral qui... »«
Je vais demander à ma secrétaire de prendre contact avec la tienne. » On retient une date pour une réunion?
Ok, mais Bobby...
Faut que j'y aille, Giles, dit Bobby avant de raccrocher. Demandez à ma secrétaire de prendre contact avec la tienne. Mais où il va chercher des conneries pareilles? Dans la salle d'interrogatoire B, Ronald Rum Collins est assis de l'autre côté de la table et on dirait que quelqu'un s'est entraîné au golf sur son visage. Une partie des dégâts est plus ancienne. Et Bobby se souvient que Mary Pat lui est tombée dessus dans un bar il y a environ une semaine. Les nouveaux dégâts consistent en une arcade sourcilière droite éclatée, une oreille gauche tuméfiée, l'orbite de l'œil droit noir et enflé, en plus de l'ancienne ecchymose jaunie de la semaine dernière, des dents noircies par le sang, des estafilades à son cou qui ont l'air d'avoir été faites avec une lame de rasoir ou par un couteau extrêmement tranchant. Mais comme Vincent l'a dit à Bobby, le pire se situe juste sous la ceinture. Il sent la pisse et même un peu la merde. Et son jean reste collé à sa peau avec le sang séché. « Quoi de neuf, Rum ?» Bobby s'assied en face de lui, s'efforçant de ne pas rire devant l'absurdité de la question qu'il vient de poser. « Pourquoi est-ce que tout est si drôle ce soir ?» Et d'un seul coup, cela lui vient à l'esprit. Parce que, pour le moment en tout cas, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça rend tout un peu plus gai. Et la pensée suivante, « Seigneur, faites que celle-ci dure. » Rum se mord la lèvre comme si sa vie en dépendait. Bobby ne veut même pas savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur.
« Elle va me tuer !»«
Qui ?»
« Je peux pas le dire !»«
Laisse-moi deviner au hasard. Mary Pat Fennessy. »«
Je peux pas le dire, merde !»« Je dirai rien, putain !»
Bobby se penche par-dessus la table et examine l'entrejambe ensanglantée du jean de Rum.
« Qu'est-ce qu'elle t'a fait, mon gars ? Elle te l'a coupé ?»«
Non !»
Rum détourne le regard un instant, mordillant sa lèvre inférieure comme un lapin maintenant.
« Mais elle a dit qu'elle le ferait !»
Alors d'où vient ce sang?
Elle... disons... elle a fait une entaille.
Dans ta queue?
Sous mes couilles!
On parle bien de Mary Pat Fennessy, là.
Rum fait presque oui de la tête, mais il se reprend, et une odeur de peur fétide et métallique monte soudain de tous ses pores comme une vague.
Je dirai rien, merde! Vous pouvez me demander tant que vous voudrez.
D'accord. Dit Bobby en lui offrant une cigarette. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Rum accepte la cigarette et la flamme que lui tend ensuite Bobby.
Je vais vous dire ce qui s'est passé sur le quai du métro ce soir-là.
Derrière Rum, Vincent hausse les sourcils vers Bobby comme pour dire :
Tu vois ?
Bobby pose un cendrier devant lui.
Ça te dérange si mon équipier prend des notes ?
Rum secoue la tête, les yeux baissés sur la table.
D'accord.
Derrière Rum, Vincent rayonne, les yeux grands comme des phares d'auto.
Quand le groupe des jeunes se sépare à Columbia Park vers minuit, Rum, George Dunbar, Brenda Morello et Jules Fennessy prennent la direction de Carson Beach. Mais juste avant d'arriver à Day Boulevard, qu'ils vont traverser pour atteindre la plage, Brenda s'aperçoit qu'elle a oublié ses clés quelque part dans le parc. Elles sont sur un anneau avec une patte de lapin blanche et un décapsuleur, cet objet ayant servi des dizaines de fois ce soir-là. Ils retournent donc au parc pour chercher les clés. Ils sont sur le point d'abandonner quand Jules aperçoit quelque chose de blanc sous un des sièges des gradins et voilà, les clés de Brenda. Columbia Park est désert, à présent. Alors il se rassoit pour décapsuler 4 bières de plus. Et George fait circuler un joint. « C'est de la bonne, leur dit-il. Pas les colitas mexicaines qu'il vend aux andouilles, mais de la sinsemilla du sud de la Californie. » Pour dire la vérité, Rum Collins est incapable de faire la différence, mais il s'imagine que c'est toute la bibine qui a endormi ses papilles. C'est à ce moment-là que George Dunbar regarde vers la route et dit « C'est ça ! N'essaie même pas de poser les yeux sur moi !» D'abord, personne ne sait à qui il s'adresse. Mais ensuite, ils se tournent tous vers la voiture qui passe tout près d'eux, le pot d'échappement crachant un nuage de fumée avec un jeune noir au volant, en train de les regarder.
« Baisse les yeux, sale nègre !»
dit George d'une voix si basse qu'ils l'entendent à peine.
« Sinon, je réponds pas de ce que je vais faire !»
Le jeune noir baisse effectivement les yeux, soit par coïncidence, soit en raison d'un sixième sens l'avertissant d'un danger imminent. Et la voiture poursuit sa route en crachant sa fumée et en tout sautant, roulant à si faible allure qu'on dirait qu'elle flotte. Elle passe sous la voie rapide, ils la perdent de vue dans l'immense zone d'ombre du pont routier, et ils ne l'entendent plus. Jules parle à Brenda, des chuchotements virulents et désespérés. Elle dit
« Je vais l'appeler !» Brenda répond « Non, attends demain, calme-toi! Il n'est pas obligé de dire que c'est le sien. Faut juste qu'il paye !»
Bobby arrête Rum un instant. « T'es en train de dire que Jules Fennessy était enceinte ?»«
Quoi ?»
Bobby répète. « Elle a dit, il n'est pas obligé de dire que c'est le sien, faut juste qu'il paye. » Rum réfléchit.
« Peut-être qu'elle parlait d'autre chose. »«
De quoi, par exemple ?»«
Je sais pas, un chat, par exemple, ou un véhicule. »
« Putain, ce débile peut voter. » se désespère Bobby, et faire des enfants. « Très bien, » dit-il à Rum. Après qu'elle a dit qu'elle allait l'appeler, au fait, c'est qui ce « il » Rum garde le silence un bon moment avant de cracher le morceau.
« Eh ben, Frankie !»
Bobby a besoin de quelques secondes, puis, sans pouvoir expliquer pourquoi, il sait à qui, parmi tous les Frankies du monde, le gosse fait référence.
Frank Toomey ?
Ouais !
Putain de merde.
Bobby se tourne sur sa chaise. Son regard croise celui de Vincent. Vincent paraît aussi sidéré que l'est Bobby.
Jules Fennessy sortait avec Frank Toomey ?
Ouais !
Et tu nous racontes ça maintenant parce que ?
Parce qu'elle a dit qu'elle me tuerait si je le faisais pas !
Bobby baisse les yeux sur la table du côté de Vincent pour s'assurer qu'il n'a pas noté ce dernier échange dans le rapport. Vincent tient son stylo en l'air, alors Bobby sait qu'il ne l'a pas écrit.
« Plus de questions à Rum sur la raison pour laquelle il parle », se corrige Bobby. « Laissons-le parler tout simplement. »«
Revenons à ton histoire », lui dit-il.
Jules décide qu'elle va appeler Frank chez lui. Là où il vit avec sa femme et ses enfants. À minuit et quart. Tous pensent que ce n'est pas une bonne idée. Ils essaient tous de l'en dissuader. Mais elle traverse Columbia Road, une pièce de 10 cents dans la main. Elle s'arrête au téléphone public juste à l'entrée du métro et glisse sa pièce dans la fente. Les garçons ne bougent pas de là où ils sont, mais Brenda traverse la route en courant pour rejoindre Jules et rester près d'elle pendant qu'elle parle au téléphone. Et Jules finit par hurler quelque chose du genre « Eh ben, tu vas sortir ton fric !» Elle raccroche le téléphone si brutalement qu'ils entendent le bruit de l'autre côté de la route. Rum et George Dunbar songent à rejoindre les filles. Mais ils devinent à la façon dont Jules agite les mains et grimace affreusement qu'elle est en train de pleurer. Et merde, qui a envie de se mêler de ça? Et puis, le même nègre qui était passé dans sa voiture agonisante sort de l'ombre projetée par le pont routier et qui sait ce qu'il a en tête, parce qu'on dirait qu'il observe les filles. Alors, Rum et George traversent en courant juste à temps pour l'entendre dire « Vous allez bien ?»«
On n'a pas d'argent, » dit Brenda.
« Qui a demandé de l'argent ?» dit alors Bobby à Rum.
« Quoi ?
Personne.
Alors pourquoi Brenda a-t-elle répondu qu'elle n'avait pas d'argent?
Rum hausse les épaules.
Pourquoi il leur parlait si c'était pas pour ça?
Même Vincent, pas vraiment copain des Noirs, en reste perplexe.
Pour savoir si tout allait bien?
Connerie, répond Rum. Il a pas à poser une question comme ça.
Pourquoi pas?
Parce que c'est pas ses affaires. Écoutez, on sait tous comment ça marche. Vous peut-être pas, mais nous, si. On se parle pas. C'est aussi simple que ça. Je veux pas d'ennuis dans ma vie, vraiment pas. Mais si j'étais assez bête pour m'approcher de quelques filles de couleur à Matapan Square et leur parler et que leurs petits amis s'amenaient, je m'attendrais à ce qu'ils me cassent la gueule bien comme il faut. Il n'y a rien de personnel. C'est juste comme ça que ça marche. Mais c'est ça la différence entre moi et cet abruti de nègre. Moi, je vais pas m'approcher de deux filles noires et je vais pas leur parler. De quoi que ce soit. Parce que je cherche pas d'ennuis.
Mais Augie Williamson en cherchait.
Bah ouais.
Bobby et Vincent échangent un regard. Continue, dit Bobby.
Ce nègre vous a demandé de l'argent?
Dit George Dunbar à Brenda. Brenda regarde George dans les yeux et sent immédiatement un changement radical d'atmosphère sur ce trottoir.
Allez, faut le camp d'ici!
Lance-t-elle au garçon de couleur. Il essaie de suivre son conseil, mais George lui barre le passage.
Tu essaies de soutirer de l'argent à ma petite amie?
Non, répond le gars tranquillement avec un petit sourire dont il n'a peut-être pas conscience.
Je lui ai juste demandé si son ami allait bien.
Pourquoi tu t'intéresses à son ami?
La voix de George est si basse qu'on peut à peine l'entendre. Et ils savent tous ce que cela veut dire.
Je ne m'y intéresse plus.
Le type noir lève les mains et essaie de contourner George.
Laisse-le foutre le camp, intervient Jules.
T'as raison, acquiesce George. Tu le verras probablement au lycée la semaine prochaine.
Jules relève brusquement la tête et quelque chose de déraisonnable se loge dans son regard.
Je t'ai dit de foutre le camp.
Le jeune noir répond.
C'est ce que j'essaie de faire.
Il semble si effrayé, terrorisé par eux. Rum en est tout surpris et choqué en même temps. Peut-être qu'ils ressentent tous la même chose parce que voilà ce qui se passe ensuite.
« T'es content ?»
hurle Jules. D'abord, personne ne sait sur qui elle hurle comme ça.
« Vous avez vos bus, vous avez notre lycée, et maintenant, vous allez envahir notre quartier peut-être ?»
Le jeune noir se met à marcher beaucoup plus vite. Un large sourire fend le visage de George, qui vide sa bière d'un trait. Pratiquement dans le même mouvement, il jette la bouteille en direction du type. Ça fait comme une explosion quand elle se fracasse. Brenda rit, Jules aussi. Rum n'a jamais vu quelqu'un rire et avoir l'air aussi désespéré en même temps. Cet air est resté gravé dans son esprit pendant des jours.
Hé, attends !
Dit George, juste au moment où le type tend la main vers une des portes de la station.
Attends !
Maintenant, le jeune noir se met vraiment à filer.
On veut juste parler,
lance George. Et ils emboîtent tous le pas à George, tandis qu'il bondit pratiquement vers les portes de la station. Quelle que soit la façon dont cela va finir, c'est en marche maintenant. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et qui le souhaiterait? Rum ne s'est pas senti aussi vivant depuis des années, peut-être même jamais de sa vie. À l'intérieur de la station, le type a déjà sauté par-dessus les tourniquets. Ils sautent tous également derrière lui.
Brenda s'écrie « Tu cours pas vite pour un nègre !»
Jules ajoute
« Ouais, je croyais que vous étiez tous des dieux du stade et ce genre de conneries !»« Hé !»
hurle George de nouveau.
« On veut juste te parler !»
Sur le quai, tandis qu'ils entendent tous la rame de métro approcher à toute allure de la station, George lance une autre bouteille de bière. Elle explose au pied du jeune noir et le gars se retourne en levant les mains et dit
« Bon, on oublie tout ça !»«
Tout ça quoi ?»
demande George. Le type trébuche en s'en mêlant les pieds et tombe à la renverse. Et George, ainsi que les deux filles, trouvent ça hilarant
Et puis... Un instant, dit Bobby à Rum Collins. T'es où, toi, dans tout ça?
Hein?
T'es où, dans cette histoire?
Moi, disons, je regarde. Alors qui a lancé la deuxième bouteille de bière, espèce de nouille?
Demande Vincent. Rum les regarde fixement, vide d'expression.
George a jeté une bouteille de bière sur Augie Williamson à l'extérieur de la station, d'accord?
Hochement de tête.
Donc, cette bouteille, on n'en parle plus. Maintenant, tu veux nous faire croire qu'il a lancé une autre bouteille sur lui à l'intérieur de la station?
Ouais.
Où est-ce qu'il l'a prise?
Rum devient un peu plus blanc que blanc. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot ne sort de sa bouche. Quelque part dans ce caillou qui lui sert de méninge, ça creuse à grands coups de pelleteuse.
C'est toi qui as lancé la deuxième bouteille, dit Bobby.
Non ! Alors tu as lancé la première, enchaîne Vincent. Non ! Choisis l'une ou l'autre. Non ! Choisis, putain !
Vincent balance un cendrier noir en plastique dur à la tête du garçon. Le cendrier rate la cible, mais le message fait mouche.
J'ai jeté la deuxième, lâche Rum.
Eh ben voilà, on avance, dit Bobby.
On oublie quoi ? Demande George Dunbar debout au-dessus d'Augie Williamson. Tout ce que vous voulez, dit Augie.
Et ils entendent tous les tremblements dans sa voix et ils les voient dans ses mains.
On oublie ce qui s'est passé.
On ne peut pas,
répond George. Parce que vous n'arrêtez pas de venir dans notre quartier.
C'est Jules qui donne le premier coup de pied.
Jules Fennessy lui a donné un coup de pied.
Rum fait oui de la tête.
Elle était fumasse, fallait voir. Complètement hors d'elle, on aurait presque pu dire qu'elle avait pitié de lui, voyez. Et plus elle avait pitié de lui, plus elle était furieuse, c'était dingue.
Brenda donne le deuxième coup de pied au gars. Et puis George.
Ensuite toi, dit Vincent à Rum Collins.
Rum les regarde un moment et finit par hocher la tête. Quand Rum donne un coup de pied au nègre étendu sur le dos, il ressent un plaisir qu'il ne se souvient pas avoir ressenti depuis, peut-être, son 9e anniversaire quand on lui a offert ce vélo à 3 vitesses qu'il demandait depuis ses 7 ans. Rum sait ce qu'il a comme perspective. Le reste de sa vie a ça aussi, chaque jour ressemblant exactement au précédent. Peut-être peut-il espérer une promotion au supermarché, progresser du rayon fruits et légumes au rayon traiteur, mais après cela, il ira où? Il n'est pas doué pour les chiffres. Il n'est pas un meneur d'hommes, ça, il le sait. Cela signifie que tout poste de responsable est hors de question. Donc, il passera sa vie aux fruits et légumes, ou au rayon traiteur, ou au rayon crèmerie. Sa vie. D'aujourd'hui à ses 65 ans. Il se trouvera une femme du genre harpie négligée, fera 4 ou 5 petits rums, et il les regardera perdre la seule bonne chose dans la vie que leur père ait connue. Au moins, quand il était gosse, on connaissait ses voisins. On avait la même nourriture, les mêmes rituels et la même musique. Rien ne changeait. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas vous prendre. Mais il pouvait. Il le ferait. Ils étaient en train de le faire. Ils vous imposaient leurs idées, leurs manières et leurs mensonges. Oui, leurs mensonges, parce qu'ils vous disaient que le changement allait vous rendre plus heureux. Il allait vous rendre plus riche. Il allait rendre votre monde plus lumineux. Il n'est pas lumineux. Il est foutrement sombre. Rum donne un coup de pied et il continue à frapper. Jusqu'au moment où il rate son coup, ce qui le fait tomber sur le derrière à son tour. Et là, ses amis se moquent de lui. Et le type noir se relève et se précipite en plein sur la rame de métro qui arrive.